Bonjour, c'est Vincent Derosier. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, qui nous permet de prendre le temps et d'aller plus loin sur les sujets d'actualité. Aujourd'hui, on va frapper la balle une dernière fois. Voilà, ça c'était la victoire de Roger Federer face à Rafael Nadal en 2017 à Melbourne en Australie. Les rencontres entre Nadal et Federer sont si exceptionnelles qu'elles ont même un nom, les FEDAL, contraction de Federer et de Nadal. C'est également le nom de votre livre, Rémi Bourrière, bonjour.
Bonjour.
FEDAL aux éditions Flammarion, écrit avec Christophe Perron. Alors avec nous dans ce studio, également Jean-Michel Rascol du service des sports qui a commenté de nombreux matchs mythiques entre les deux joueurs. Salut Jean-Michel.
Bonjour messieurs.
Alors, première question Rémi Bourrière, ce nom FEDAL déjà, ça remonte à quand? C'est quoi l'histoire?
Alors ça c'est une très bonne question. Mais ce qui est sûr c'est que c'est effectivement passé dans le langage courant aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça a été décliné à d'autres sauces. Hein. Aujourd'hui, on parle par exemple des Nadalovic pour parler des Nadal Djokovic ou des Fedalovic aussi pour les Federer Djokovic. Mais c'est une bonne question. Je ne sais pas à quel moment c'est sorti.
Alors, toutes ces rencontres entre les deux joueurs ont été rebaptisées FEDAL. Il y en a eu combien?
Il y en a eu 40. Le dernier à Wimbledon en 2019.
Jean-Michel Rascol, qui gagne en général un bon FEDAL dans l'histoire?
Il n'y a pas de généralité, mais si on fait les comptes, Nadal en a gagné 24 et Federer 16. Donc, il y a un petit avantage au Mallorcain.
Votre meilleur souvenir de commentateur, qu'est-ce que c'était?
C'est peut-être une victoire de Nadal, mais une finale très largement perdue par Federer. C'était en 2008 à Roland-Garros. On était tellement content que Federer accède à la finale et puisse rivaliser avec Nadal. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. 6-3, 6-1, 6-3, 6-0 en faveur de l'Espagnol. Et toute la tristesse du monde dans les yeux de Federer.
Federer qui n'a jamais gagné à Roland-Garros.
Si, il a gagné Roland-Garros, mais l'année où Nadal avait été battu avant la finale.
Il n'a jamais battu Rafael Nadal à Roland-Garros. Rémi Bourrière, votre plus beau des 40, vous, c'était lequel?
Je pense que le plus beau, c'est la finale de Wimbledon 2008, qui est souvent considérée comme le FEDAL ultime, on va dire, parce que c'est un match absolument mythique et même considéré comme le plus beau match de tous les temps, en tout cas l'un des plus beaux matchs de tous les temps, parce qu'il y a tout eu dans ce scénario. Un niveau de jeu quand même assez exceptionnel, alors peut-être pas pendant l'ensemble des 5 sets, mais en tout cas pendant 3 ou 4 sets, c'était quand même assez exceptionnel. Une fin dans un décor crépusculaire, en fait, il faisait quasiment nuit, on n'y voyait plus rien. Et puis c'est un match très symbolique en plus, parce que c'est au final Nadal qui le gagne, et c'est à ce moment-là qu'il assoit vraiment sa domination sur Roger Federer, mais aussi sur le tennis mondial, puisqu'il passe numéro 1 mondial, pas dans la foulée, mais quelques semaines après. Donc ce match-là, ça marque un petit peu un tournant dans leur rivalité et dans l'histoire du tennis.
Oui, ce match, il est considéré comme l'un des plus grands de l'histoire du tennis parce que Nadal, qui avait été battu l'année précédente en demi-finale, détrône ce jour-là le quadruple tenant du titre, Federer, qui avait gagné quand même déjà 4 Wimbledon.
Ouais, donc ils se sont tout partagés pendant des années.
Et puis c'est vrai, 5 heures de match, la pénombre, des points incroyables, le public qui est là, c'est plus qu'une messe, c'est un spectacle inattendu presque en termes de niveau de jeu.
Et puis 2008, ils étaient jeunes tous les deux encore, même si Federer est un peu plus vieux.
Oui, ils sont pratiquement au sommet déjà de leur tennis, peut-être pas encore pour Nadal, mais Federer est déjà cet homme avec une fluidité, un geste, une beauté incroyable dans sa façon d'aborder le jeu. Et Federer, lui, défense, puissance, et il va avoir prendre le meilleur sur ce qui se fait de mieux à ce moment-là.
Alors ça, c'était l'aspect sportif. On va rentrer un tout petit peu dans la vie privée des deux joueurs maintenant. J'ai envie de vous demander s'ils sont vraiment amis ou s'ils ont appris à s'apprécier avec les années. Et juste avant de me répondre, écoutez ça. C'était en 2020, donc on est en plein confinement. Les deux se font une petite visio et Federer chambre amicalement Rafael Nadal.
Me I didn't touch your racket since Indian Wells.
Perfect. You won't be able to play tennis anymore.
Voilà, Roger Federer, tout heureux d'entendre Rafael Nadal qui n'a pas touché une raquette depuis longtemps et qui espère qu'il aura un peu perdu son tennis entre-temps. Alors, est-ce que c'est fake tout ça, Rémi Bourrière, ou c'est vraiment des potes?
Non, c'est pas fake. Alors, ami, le mot est peut-être un tout petit peu trop fort, parce que ça reste quand même des rivaux, ils n'habitent pas l'un à côté de l'autre, ils ont chacun leur vie. C'est pas des potes dans le sens où c'est pas deux personnes qui vont manger au resto ou boire un coup. Voilà, ils se voient pas non plus extrêmement souvent. Par contre, ils sont très très complices et très respectueux l'un envers l'autre, et ça depuis le début. Et c'est pas fake du tout, ça remonte en fait à leur première rencontre, qui n'était pas un simple, c'était un double en fait. Ils se sont joués pour la première fois à Indian Wells en 2004. Nadal avait 17 ans et Roger venait de passer, tout juste passer le numéro 1 mondial. Et Roger, qui a toujours en fait été assez bienveillant en fait avec les petits jeunes qui arrivent sur le circuit, il a toujours été assez intéressé par les petits jeunes. Il aime bien les découvrir. Il a c'est son partenaire de double ce jour-là, Ival Legro, qui me l'a raconté. Il a été marqué par sa rencontre avec Nadal, à la fois tennistique bien sûr, parce qu'il a perdu ce double. Hein. Federer et Allegro ont perdu contre Nadal qui jouait avec Robredo. Mais il a aussi beaucoup apprécié son attitude, parce que voilà, tout de suite Nadal a montré beaucoup de respect, il lui a posé des questions. Enfin, il a senti un jeune vraiment très, très humble, très à l'écoute. Et à tel point que le lendemain, il l'a invité à venir dans son box pour assister à son match en simple contre un Argentin qui s'appelle Juan Ignacio Chela, enfin peu importe. Donc il y a des photos qui traînent où on peut voir Nadal, le jeune Nadal qui a 17 ans et qui est assis à côté de Mirka Vavrinec, l'épouse de Federer, dans le box pendant le match du suite. Donc c'est pour dire, c'est la preuve que c'est pas fake. Ils avaient déjà tissé dès leur première rencontre une certaine complicité.
2004 donc, et Jean-Michel, Rascol, Roger Federer, il voit débarquer un ovni à ce moment-là.
Il voit débarquer un ovni qui joue d'une façon différente, qui n'a pas la même philosophie du tennis que lui. En termes d'amitié, je dirais que leur rivalité est devenue une amitié sans pour autant effectivement qu'ils aillent au restaurant ensemble. Mais ils passent tellement de temps sur le circuit tout au long de leur carrière à se croiser, à se voir dans les vestiaires. Et puis vous savez, au fur et à mesure, quand on atteint les phases finales des tournois, il y a de moins en moins de monde. Les contacts se lient et c'était plus facile pour eux de devenir des amis que des adversaires qui n'avaient rien à se dire.
Parce que la question qu'on se pose, c'est pour maintenir un tel niveau et continuer à battre son rival de toujours, on ne peut pas vraiment être pote dans la vie.
Pourquoi pas ?
C'est possible ?
Je pense que dans l'histoire du tennis, qui est quand même un sport ultra concurrentiel, on n'a jamais vu deux grands rivaux comme ça s'apprécier autant en fait. Toujours dans les grands rivaux historiques du tennis, les Borg, McEnroe, les je sais pas, les Connors, Lindell, les Sampras, Agassi, les Edbert Baker, il y a toujours une forme, peut-être même d'antagonisme chez certains, en tout cas une vraie distance quoi. Et après, à la fin de leur carrière, une fois que tout est fini, éventuellement, ils peuvent devenir plus proches, comme ça a été le cas de Sampras et Agassi, ou de Connors et McEnroe qui ne pouvaient pas se blairer et qui se sont un tout petit peu rapprochés après. Mais la particularité de Federer et Nadal, c'est que dès le début, en fait, ils ont noué cette complicité.
Donc on peut dater quand même leur amitié ou cette forme de respect au tout début de Nadal, c'est-à-dire en 2004.
Ah ouais, tout à 2004, fait.
2004, 2008, oui, effectivement.
Entre 2004 et 2008, ils apprennent à se respecter et à se craindre. Est-ce qu'ils se voient, Rémi Borrière, en dehors des tournois ? Est-ce qu'ils ont partagé des choses autres que le tennis ?
Ils se voient en chacune des grandes. Ils sont toujours là, en fait, l'un pour l'autre dans les grandes occasions. Par exemple, quand Rafael Nadal a ouvert son académie à Majorque il y a quelques années, Roger Federer était là pour l'inauguration. Quand Roger Federer monte la Lever Cup en 2017, Nadal est là pour la jouer, alors que sportivement, ça lui rapporte pas grand-chose, quoi. Ils sont toujours là, en fait, l'un pour l'autre. Ils ont toujours des mots sympas l'un envers l'autre. Donc c'est là où on voit, en fait, c'est comme on dit, c'est dans les actes hein, plus que dans les mots, parce que c'est facile de dire à propos de ton rival, je le respecte énormément, bravo, gna gna gna. Mais c'est surtout dans les actes, on voit dans les actes qui sont présents l'un envers l'autre, dans les moments importants.
Toi Jean-Michel qui a commenté des matchs Nadal-Federer, parfois on voit franchement des joueurs qui peuvent pas se blairer pour dire les choses simplement. Ça se voyait sur le terrain qu'il y avait du respect entre eux ou
oui,
il y a eu
exemple,
des moments de tension.
Il y a une chose, on ne conteste jamais un point. Je me rappelle pas d'une contestation entre eux sur une balle faute ou sur la ligne par exemple. Et ça c'est très caractéristique de gens qui se respectent. Le mot clé c'est respect effectivement. Notre camarade l'a employé tout à l'heure, mais s'ils ne sont pas scellés par une amitié forte, ils sont vraiment unis par un respect mutuel.
Mmh. Rémi Borrière, dernière petite question. Est-ce qu'il y a dans votre livre des anecdotes qu'on peut apprendre, des confidences que le public n'a jamais connues, sues ?
Toujours pour parler de leur relation, effectivement, qui est empreinte de respect, il y a quand même eu quelques petits moments de tension qu'on évoque dans le livre, qui ne sont pas forcément connus, mais je sais qu'en coulisses, par exemple, à un moment donné, ils étaient tous les deux investis au conseil des joueurs de l'ATP. Donc c'est une espèce d'organisme en fait qui participe à la prise de décision de l'instance dirigeante du tennis professionnel sur l'agencement du calendrier, sur des choses comme ça.
C'est de la politique
là,
presque ça. Hein.
C'est de la politique et là en coulisses, ils ont eu quelques petites frictions, quelques petits désaccords. Nadal a reproché en off à Federer d'être un peu trop lisse, un peu trop, un peu trop neutre en fait, finalement, il ne devait jamais trop se mouiller dans ces questions-là.
Un peu trop suisse.
Un peu trop suisse, exactement. Il y a eu aussi, sur le court, il y a eu une ou deux petites frictions, plutôt entre Federer et, je me rappelle d'un match, c'était à Rome en 2006, je crois, où Federer avait ouvertement reproché à Tony Nadal, donc l'oncle et l'entraîneur de Rafael Nadal, de le coacher. De le coacher ouvertement entre les points. Donc là, il y a eu des petits moments de tension comme ça dont on parle. Mais voilà, encore une fois, ça ne veut pas dire que...
Des tensions entre compétiteurs plus.
Des tensions, il y en a dans les couples, il y en a dans les fratries. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, quoi.
Mm-hmm. Puis il y a un détail technique qui explique aussi cette tension. C'est que Nadal a très vite compris qu'il fallait jouer le revers de Federer avec des balles bombées qui allaient gicler sur son revers sur lesquels il n'arrivait pas à s'appuyer. Et Federer, ça l'a énervé parce qu'il a trouvé une forme d'impuissance. Il n'a pas trouvé la réponse très longtemps, surtout sur terre, à ces balles qui arrivaient sur son revers et qui giclait au-dessus de son épaule. Ça peut énerver le plus grand joueur de tennis de l'univers.
Dernière question avec tout ce qu'on s'est dit. Alors là, c'est un avis personnel qui va au-delà du score de 24-16 entre les deux joueurs. C'est qui le meilleur, le plus complet, Jean-Michel ?
Oh ben, c'est très difficile à dire. Mais en tout cas, celui qui incarne le tennis dans sa plus belle des manières, c'est Roger Federer. Indéniablement, il n'y a pas d'égal dans l'histoire du tennis, dans sa façon de se déplacer, dans sa façon ne serait-ce que de tapoter la balle avant de servir. C'est de l'art, ce n'est plus du tennis. C'est vrai que Nadal est plus mastoc, il est plus trapu, il a des tics, il frappe, il défend beaucoup. Alors c'est une forme aussi d'excellence de défendre comme il le fait. Mais la façon dont Federer a de caresser la balle, elle est unique.
Rémi Bourrière, vous êtes d'accord, Federer gagnant sur la note artistique, mais peut-être pas sur la note technique, puisqu'il il a été battu 24 fois.
Je suis d'accord, oui. C'est Martina Navratilova qui a eu, au début de leur rivalité, cette formule qui, je trouve, est toujours plutôt d'actualité. Elle avait dit Roger Federer est le plus grand joueur de tous les temps, mais Rafael Nadal est plus fort que lui. Donc c'est vrai que le tennis, c'est aussi une question d'opposition de style. Et le style, comme le soulignait Jean-Michel, est favorable à Nadal parce que ces balles liftées de gaucher sur le revers de Federer, ça l'a beaucoup gêné, entre autres. Je pense que sur le plan purement technique, Federer effectivement est au-dessus. Il incarne le tennis à l'état pur. Après, peut-être que Rafael Nadal est encore un meilleur compétiteur, un peu au-dessus physiquement, mentalement. Et c'est ce qui lui a permis de prendre le dessus sur... pas la plupart de leurs matchs, parce que Federer en a quand même gagné 16, mais c'est lui qui est en tête dans les face-à-face. Donc voilà, technique Federer, physique, mental, peut-être Nadal.
Eh bien, merci de nous avoir éclairé sur cette relation si particulière entre Rafael Nadal et Roger Federer. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que le podcast Focus est à retrouver sur toutes les plateformes et bien sûr sur RTL.fr et l'application RTL.